Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Non, j'entendais pas votre...
Yves Saint-Laurent.
J'ai créé une maison de haute couture, donc je suis responsable de tous les gens que j'ai engagés dans cette maison. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de moi-même. Je suis absolument un fossile. Enfin, je suis dans ma cage et je ne peux plus en sortir. On ne sort pas si facilement de la haute couture, vous savez.
L'histoire de la mode, discipline qui naît à peine et dominée par l'ombre de quelques grandes marques, triées par le succès et qui, non contentes d'habiller le présent, refont le passé. 12 ans après la fermeture de la maison, l'image de Saint-Laurent pourrait être menacée par l'oubli, brouillée, elle est moins connue peut-être à l'international qu'en France, mais des événements sont organisés régulièrement qui ravivent ses couleurs et cette année, 2 biopics auront été présentés sur les écrans. Le second, signé Bertrand Bonello, qui a dû lire le livre de notre invité, n'est pas vraiment un biopic. Il ne refuse pas de montrer ce que les spectateurs décidés à admirer Saint-Laurent veulent voir, mais il le fait d'une manière que le public n'attend pas. Son parti pris est de supposer que quelques années peuvent contenir tout Saint-Laurent. Et en effet, le couturier, s'il a habillé plusieurs époques, en a marqué une seule, profondément, du milieu des années 60 au milieu des années 1970. Les temps qui suivirent furent financièrement plus fructueux, mais moins heureux. Il disait lui-même, à l'instant, « Je suis un fossile dans une cage, un air de Java sorti d'une Rolls qui s'éloigne lentement. »
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Marie-Dominique Lelièvre, bonjour.
Bonjour.
Qu'on a entendu fugitivement à l'heure du générique. Alors comment vous présentez ? Je parle de l'histoire de la mode, discipline qui naît difficilement... D'autant que ce n'est pas très facile souvent d'avoir des archives dans ce monde-là. Alors il y a eu une monographie sur Patou extraordinaire qui vient de paraître. L'auteur a bénéficié de la bienveillance de l'héritier, d'une série continue de documents. Et puis Patou n'est plus un enjeu. Quand vous, vous faites des portraits dans le monde de la mode, je citais votre Saint-Laurent qui vient de passer en Gélu, collection de poches. Il faut que je cite votre Chanel qui est chez De Noël. Là, vous butez sur pas mal de difficultés, voire d'interdits.
Je ne suis pas tout à fait dans la même position qu'une historienne, puisque j'écris des livres enquêtés et je dois rencontrer des témoins. Donc évidemment, dans certains cas, des portes se ferment, mais beaucoup de portes s'ouvrent aussi. Et ça permet d'apprendre une grande quantité de choses sur des gens qui sont finalement très différents de ce que l'on imagine.
Une fois, vous allez voir la psychiatre de Saint-Laurent et vous vous étonnez qu'elle ne vous réponde pas. Et vous vous étonnez qu'elle vous ait accueilli. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit ?
Je ne me souviens pas vraiment. Je me souviens que c'était très, très curieux. Je me souviens d'une femme très curieuse et je sais qu'elle l'a accompagnée pendant des années. Elle était toujours à ses côtés, notamment quand il a inauguré le Met, enfin son exposition
83.
Au Met, oui, en 83. Non, je me souviens pas. Mais c'est
toujours... elle vous dit « Oh ben non, je ne voulais pas vous répondre. Je voulais simplement voir la tête que vous avez parce que j'ai bien aimé votre livre sur Françoise Sagan, parce que vous avez fait aussi un Sagan. »
On dit que les psychiatres sont
Gainsbourg,
un peu bizarres.
Aussi un Brigitte Bardot. Alors, biographe, vous êtes. Il commence sa vie, il naît en 36, entouré de femmes qu'il admire et l'aime avec une adorable jalousie et un adorable égoïsme. La jeunesse qu'il passe en Algérie, à Oran, elle ouvre des blessures. Mais c'est en même temps, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui, la jeunesse d'un garçon facétieux, joyeux.
En tout cas, c'est ce que dit sa sœur Brigitte Mathieu Saint-Laurent. Elle le dépeint comme quelqu'un de plutôt taquin, de plutôt joyeux, même si il avait une forte propension à la mélancolie. En tout cas, elle le décrit, oui, comme quelqu'un plutôt heureux de vivre, ce qui semble évidemment pas facile à imaginer, mais c'est ainsi qu'elle le voit.
Il s'appelle Mathieu Saint-Laurent.
Oui, son vrai nom, c'est Yves Mathieu Saint-Laurent. Il est né à Oran et il vient d'une famille de gens de robe, en fait. Sa famille est arrivée en Algérie à la fin du 19e siècle, après la guerre de 70, parce que c'est des gens d'Alsace-Lorraine, en fait. C'est vraiment une famille, une importante famille de robe avec des grands-pères qui ont la Légion d'honneur.
Lui l'aura aussi en 1985, mais pas pour service rendu à la République, à l'art. Peut-être il arrive à Paris avec sa maman. Il est appelé chez Dior, où il sera modéliste.
J'avais 14 ans et Je m'amusais avec mes sœurs à refaire le décor et les costumes de Carmen, et mes sœurs dansaient Carmen. Donc c'était très amusant.
Mais c'était où ça?
C'était à Oran, en Algérie. Je préparais mes études de philosophie. Bien, j'étais un peu dans l'indécision car le théâtre et la couture se partageaient mes passions.
Je ne veux pas dire que c'était Léonard de Vinci, mais c'était un charmant dessinateur et un homme qui avait une idée très particulière, un homme, un bébé. Il est arrivé à Paris comme un petit étudiant qu'il était, un bachelier, accompagné par sa maman. Il arrivait d'Oran. Il était à peu près aussi grand qu'il est maintenant et aussi maigre, 1m82, 62 kilos. Sa maman était là, qui l'accompagnait partout.
Alors, vous avez reconnu la Chanelienne de choc, là?
Edmond
Charleroux. Alors, Edmond Charleroux, elle est très pragmatique, elle est de l'école Chanel. C'est-à-dire qu'elle ne considère pas nécessairement la couture comme un art, c'est pas Léonard de Vinci, elle le pèse. Et c'est vrai que les premières collections chez Dior, quand il succède à Christian Dior, mort prématurément, amènent un certain succès. Encore que vous, vous dites, ouais, succès d'estime, mais est-ce qu'il y a beaucoup de ventes? On le sait.
Oui, en fait, non. Les premières collections qu'il a réalisées chez Dior n'ont pas été un succès très, très notable, mais c'est normal. C'était un homme très jeune. Il a été choisi, en fait, pour sa jeunesse. Et il faut se trouver, enfin, et même il faut se chercher avant de se... Mais la vision de Charleroux est intéressante, mais elle est juste, en fait, parce que c'est après qu'on a inventé l'idée que les couturiers seraient des artistes. Mais ça, c'est une idée qui date des années 70. C'est une idée de marketing, ça. C'est une manière de vendre la mode en inventant la mythologie des artistes torturés, quoi. On reprend ce vieux truc du 19e siècle. Donc la vision de Charleroux est plutôt juste, oui.
Alors vous insistez plutôt sur l'énergie qui est nécessaire quand on veut être créateur. Enfin, créateur, c'est encore du vocabulaire des années 70-80. Il est envoyé au service militaire, il ne le fait pas vraiment, et quand il revient, la place chez Dior est prise par son ennemi intime, Marc Bohan, et c'est un garçon qui, avec son nouveau compagnon Pierre Berger, qui est habitué à fabriquer des succès, manifeste de l'énergie pour créer sa propre maison. Joie, énergie.
Oui, il y a une très grande puissance de vie chez Yves Saint-Laurent. Il ne faut pas se tromper. Cette petite voix que l'on a entendue tout à l'heure recouvre en fait une volonté de faire. Une chose qu'on m'a racontée lorsque je faisais mon enquête, c'est que quand on serrait la main de Yves Saint-Laurent, on avait la main littéralement broyée. Alors que la main de Pierre Berger, qu'on imagine, lui, l'énergique du couple, elle est plus évanescente. Et c'est vraiment lui qui a porté ce projet, c'est lui qui avait cette ambition colossale et ce désir très profond de réaliser cette maison. Et c'est lui qui a créé l'idée de cette maison. Alors, il y avait Pierre Berger, mais il y avait aussi un autre partenaire très important dans leur équipe, qui venait de chez Dior, que Yves Saint-Laurent a rencontré bien avant Pierre Berger, qui est Anne-Marie Munoz, qui est la directrice des ateliers de couture. Ils sont partis à quatre, en fait. Il y avait Anne-Marie Munoz, Victoire Dutrelot, qui était l'égérie de Yves Saint-Laurent, évidemment Saint-Laurent lui-même et Pierre Berger, son partenaire.
Ils partent de la rue Spontini. Vous parlez de la main qui broie et le regard qui sonde.
Oui, c'est quelqu'un qui sait regarder, de toute évidence. C'est un visuel, c'est un vrai visuel. Et il n'est pas dans le verbe, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il sache magnifiquement s'exprimer, mais en revanche, il sait regarder.
Alors, on parlait de Chanel. Votre livre chez De Noël lui est consacré. Chanel, c'était l'intelligence de la main. Mais Yves Saint-Laurent, lui, dessinait d'abord.
Lorsque je prends un crayon, je ne sais pas ce que je vais dessiner. C'est-à-dire que rien n'est prévu. C'est le miracle de l'instant. Je commence par un visage de femme et tout à coup, la robe suit. Ce n'est pas une chose que j'ai pensée avant. Je ne sais pas ce que je vais dessiner. C'est la création à l'état pur. C'est ce qui m'impressionne le plus d'ailleurs, ce jaillissement de la création qui m'éblouit moi-même. Enfin, c'est une facilité d'ailleurs, une grande facilité, une grande aisance me sont venues au cours de ma vie de couturier. Quand le dessin est fini, je suis très heureux.
Alors, comment se passait la vie dans l'atelier, dans le studio?
Les dessins dont parle Yves Saint-Laurent, il les produisait en effet à profusion et ils étaient rassemblés par Anne-Marie Munoz, qui était son bras droit, et Anne-Marie les redistribuait entre les différents chefs d'atelier, l'atelier tailleur, l'atelier flou, etc. Et c'était un grand moment pour eux parce que c'est le moment où ils découvraient les dessins, puis où on leur remettait leur travail. Donc lui, il rend un simple dessin et par la magie de cet art au sens du XVIIIe siècle, cette fois, de la haute couture, c'est-à-dire de ces mains d'or que sont les ouvriers des ateliers de haute couture, ce dessin se transformait en robe, en tailleur, etc. Et il avait de remarquables ouvriers, dont Monsieur Jean-Pierre, qui était un premier d'atelier, qui était à la tête de l'atelier tailleur, qui a dû faire une grande partie de sa carrière auprès d'Yves Saint-Laurent. Et c'est à Monsieur Jean-Pierre qu'il a dû les épaules de ses tailleurs. Vous savez, il avait une épaule comme ça, un petit peu carrée, mais très ronde en même temps, très près du corps. Ça, c'était tout le talent de Monsieur Jean-Pierre, qui peut encore aujourd'hui, avec ses mains, vous modeler. Il ne peut pas vous expliquer comment il fabriquait cette manche, mais il peut la sculpter dans l'air et vous comprenez le travail. C'est aussi un travail qui doit beaucoup à l'art du repassage et à l'art. Enfin, c'est vraiment cette magie des ateliers. Il y avait une autre dame aussi assez extraordinaire qui est toujours première d'atelier, enfin qui coud toujours, qui s'appelle Colette Massier, qui avait commencé sa carrière à 15 ans chez Gabrielle Chanel. Elle a travaillé pour Mademoiselle Chanel et par la suite elle est rentrée chez Yves Saint-Laurent dans l'atelier flou. Et elle raconte cette histoire assez merveilleuse. Un jour il a distribué le même dessin à deux premières et ces deux premières l'ont interprété de manière différente. Et je crois que l'une avait fait un très large pantalon du soir et l'autre avait fait une jupe très large. C'est pour vous, cela montre que l'ouvrier lui-même a une part très importante dans cette création.
Alors c'était un des beaux moments de votre livre, la visite chez Monsieur Jean-Pierre. Mais alors le morceau de bravoure, c'est votre interprétation de Belle de jour, le film de 1967 de Luis Buñuel. Alors on rappelle le scénario, Séverine, Catherine Deneuve, est une femme de bonne famille et elle se dirige régulièrement vers l'appartement de Madame Anaïs au fond d'une villa du 17e arrondissement, si mes souvenirs sont bons. Et là, elle se livre avec d'autres femmes à la prostitution. Elle est livrée au regard de Francis Blanche et d'autres clients qui s'intéressent d'abord à son vêtement, qui était évidemment un vêtement Saint-Laurent.
Vous mettre une robe qui s'enlève en deux temps, trois mouvements ? Pas vrai, monsieur Adolphe ?
Ah non, je t'en prie, moi je la trouvais patente avec sa petite robe. Effet distingué, c'est tout ce que j'aime.
Depuis le temps que vous me promettez un cadeau, j'aimerais une chose comme ça.
Ah et oh, je suis pas Rothschild, ma poule.
Hélas, que c'est bien coupé. T'as vu les finitions, c'est formidable.
Ah oh bah, quand on a les moyens, c'est facile de bien s'habiller.
Et la classe, ça s'achète pas, la classe.
Et alors, belle de jour, on fait la gueule ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ?
Le bleu noir, c'est comme un écrin, c'est quelque chose à la fois de simple, mais les lignes sont tellement extraordinaires, c'est là où on voit la beauté vraiment et son talent des couturiers. C'est que dans le bleu noir, c'est tellement une couleur tellement qui absorbe tellement tout, voyez, donc on ne voit plus que la ligne vraiment des vêtements.
Catherine Deneuve est toujours contente de Saint-Laurent, mais elle n'était pas contente de Buñuel. Buñuel n'était pas content de Catherine Deneuve, et vous dites que ce sont les costumes de Saint-Laurent qui ont fait le film. Alors expliquez.
Oui, alors en fait, c'est vraiment... Saint-Laurent est un des créateurs de ce film par les costumes qu'il a élaborés pour Catherine Deneuve. Donc dans ce film, Catherine Deneuve et Séverine, une jeune bourgeoise qui se rend dans une maison de passe et elle se rend là-bas habillée vraiment en jeune bourgeoise, c'est-à-dire un petit manteau d'officier gris boutonné jusqu'en haut, des petites chaussures plates à boucles, espèce de petit mocassin plat à boucle. Et c'est pas la porte vers, un peu comme les souliers, enfin la porte vers cette maison.
Les escarpins la dirigent vers le lieu du rendez-vous.
Voilà. Et elle rentre dans cette maison et elle, sous la robe, elle porte sous le manteau, pardon, elle porte une robe chemisier en velours beige, en jersey beige, jersey qui est et couleur surtout qui est vraiment la marque de la bourgeoise. Donc elle est dans son petit truc et là où Saint-Laurent est génial et on l'a entendu tout à l'heure dans le document que vous avez passé, elle est face à Francis Blanche et il dézippe la robe et il a créé ce bruit de dézippage. collage avec des scratchs qui donne une espèce d'idée d'arrachage qui l'a fait passer. En fait, la robe lui permet de passer d'un statut à un autre, celui de femme qui va se livrer à ses turpitudes. Et elle l'a dit d'ailleurs par la suite, les costumes l'ont porté. Elle a habité son rôle grâce aux costumes.
Ce ne sont pas les femmes vraiment effacées qui vont incarner le style Saint-Laurent. Zizi Jeanmaire, par exemple, elle est là dès le départ. Et Yves Saint-Laurent va dessiner pour elle nombre de costumes, pour elle et pour la compagnie de son mari Roland Petit, notamment ceux d'une revue fameuse au Casino de Paris.
Vous vous souvenez de la première robe que vous m'avez
faite ? Oui, je me souviens. J'étais encore modéliste chez Dior. Et Christian Dior m'avait envoyé chez vous. C'est ça, une robe blanche avec beaucoup de diamants.
Oui, c'était tellement joli. C'était notre première rencontre.
Oui, vous êtes la seule personne qui m'avait fait travailler pour le théâtre.
On a fait Cyrano.
Cyrano, c'était le premier.
Le premier.
Ensuite, on a la revue fait... de l'Alhambra, pour Zizi.
La revue de Chaillot, du TNP.
Le spectacle de ballet du TNP aussi.
Mal d'Aurore.
Qui était Mal d'Aurore, la suite espagnole de Gravel.
Plusieurs ballets.
Et Notre-Dame.
Et Notre-Dame.
Et Notre-Dame.
Et le spectacle. Puis, le dernier spectacle du Casino.
Du chambre du brut, des vampes, des putes, des stars, des tsars de l'amour, des poules toutes faites, aux moules de la tête, aux quilles des filles d'amour, à poil ou à plume, la femme sera toujours sans voile, sans costume, faite pour l'amour. Du strass des diams, du strass du Brahms, des zips, des strips, de l'amour, brillants ou mat, tire dans les pattes, sur les poupées, l'amour, à poil ou à plume, la femme sera toujours sans voile, sans costume,
sans voile, sans costume,
faite pour
sans voile, sans costume,
l'amour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Yves Saint-Laurent avec Marie-Dominique Lelièvre qui a écrit un livre, collection J'ai lu maintenant, sur Saint-Laurent. Et puis aussi, naguère, un livre sur Serge Gainsbourg, auteur des paroles de la chanson interprétée il y a un instant par Zizi Jeanmaire. Je voulais vous poser une question sur le milieu de la mode que vous jugez le plus conformiste qui soit. Le pire conformisme, c'est celui de la nouveauté. Et pourtant, on dit, Yves Saint-Laurent a inventé ceci, Yves Saint-Laurent a inventé cela.
Oui, il y a des gens qui disent ça, oui. Moi, je ne dis pas ça, non, parce qu'en fait... Ici, on dit qu'il a inventé le smoking, il a inventé le pantalon, il a libéré les femmes. Bon, ça, c'est un peu des clichés, enfin, c'est même complètement des clichés, parce qu'en réalité, le smoking pour femmes, il ne l'a pas du tout inventé. Marlène Dietrich en portait bien avant qu'il ne les montre sur le podium. Et les pantalons non plus, les femmes chinoises en portent depuis plus de 2000 ans. En revanche, il restera, je pense, dans l'histoire de la mode pour une collection très particulière, qui est sa collection...
De 1971.
De 1971.
Mais on va y venir, si vous voulez bien, Marie-Dominique Lelièvre. Mais avant, je voudrais vous faire franchir un obstacle. Parce que le milieu de la mode... est le plus conformiste qui soit, et il déteste aussi les gens qui procèdent à des ruptures trop ouvertes. Alors, l'obstacle, c'est avant la collection de 71, bien avant 64, André Courrèges. Ça fait du bien d'entendre le cher André Courrèges avec son accent béarnais, qui avait le don de mettre en colère Yves Saint-Laurent et qui lui a fait prendre un coup de vieux peu après qu'il avait débuté.
J'en ai par-dessus la tête de ces manteaux, de ces tailleurs, tout ça qui manque d'imprévu. Alors j'utilise n'importe quoi, du coton, de la soie, du plastique, tout ce qui me fait plaisir et qui scintille et qui me donne quelque chose d'imprévu.
Ces robes sont presque toutes transparentes. Pensez-vous qu'elles puissent être portées ?
La fille actuellement, elle se dénude. Elle n'a pas de problème de se dénuder.
On ne peut pas comme ça se promener dans la rue.
Je pense qu'il y a trois sortes de couturiers de toute façon. Il y a les grands, les vrais, ceux qui savent donner un coup au cœur à une femme simplement en faisant une robe très simple ou un tailleur très simple. Je pense qu'il n'y en a eu que deux pour l'instant. Je pense qu'il y a eu Balenciaga et Chanel qui ont marqué leur époque et leur métier. Il y a ce que j'appelle les couturières, c'est-à-dire ceux qui font honnêtement leur métier. C'est très bourgeois, très ennuyeux. Et puis alors il y a les couturasses, enfin, les espèces de gens qui font tout à l'esbrouf, qui attifent les femmes avec de la ferraille, avec du cuir, des espèces de choses que je ne comprends pas, qui m'échappent totalement.
La petite chanson de Bardot, c'était pour vous faire plaisir, parce qu'est-ce que j'ai dit que vous avez fait aussi un livre sur Brigitte Bardot. Il faudrait peut-être qu'on consacre une émission à Brigitte Bardot, non, vous pensez?
Ah, moi j'aimerais bien, oui.
Par contre, ça ne fait pas plaisir à Courrèges, ce que dit Yves Saint-Laurent de lui. Couturasse, de l'acier, du plastique, il y a vraiment une antinomie entre eux.
Alors, il y a une antinomie, oui, parce que Courrèges, c'est un architecte, c'est un homme qui a fait ses classes auprès d'un immense couturier qui est Cristobal Balenciaga. Et c'est un visionnaire. Quand il a créé ses mini-robes, il a vraiment réfléchi en designer, en créant des formes qui permettaient aux femmes de vivre plus simplement leur vie quotidienne. Par exemple, des ourlets courts qui permettent de marcher vite, d'avancer. Il était vraiment dans cette idée que le corps doit pouvoir bénéficier d'une grande aisance dans ses mouvements, ce qui n'a jamais été l'approche d'Yves Saint-Laurent. Cela dit, il a influencé Yves Saint-Laurent, puisque peu après, pour répondre aux formes très géométriques de Courrèges, mais aussi de Pierre Cardin, qui était lui-même un avant-gardiste, oui. Il a créé sa robe Mondrian. C'est une réponse à Courrèges.
Alors, ça, c'est la collection Mondrian. Oui. Alors, on dit collection Mondrian, on va parler de la collection de 60, qu'on dit 40, années 40. Mais c'est des termes génériques que les autres donnent, que Saint-Laurent n'utilise pas lui-même.
Non, d'ailleurs, la collection Mondrian ne s'appelait pas collection Mondrian. La robe, je crois, s'appelait robe Mondrian, mais il y avait seulement quelques robes dans cet esprit-là, dans la collection. Mais la collection elle-même était beaucoup plus variée. Il y avait beaucoup de passages, vous savez, dans un défilé de haute couture.
Alors là, on est au milieu des années 60. Alors, oui. On en vient à la collection dont vous voulez parler.
Alors, la collection de 71, elle est marquante parce que c'est cette collection qu'on surnomme généralement la collection 40, puisqu'il a montré des femmes qui étaient habillées. Il a fait une espèce d'hommage, si vous voulez, à la mode de la guerre. Des femmes en plateforme, des cheveux crêpés, teints, des robes à épaulettes, des robes en crêpes imprimées. Or, l'idée qui était là, et c'est en ça que c'est une idée, je pense, vraiment neuve dans la mode au moment où il le fait, c'est l'idée du revival, c'est-à-dire qu'il introduit dans un salon de couture un vêtement qui est inspiré par un autre vêtement du passé. Évidemment, les copines qu'il avait à ce moment-là, qui étaient des filles comme Loulou de la Falaise ou Paloma Picasso et toutes les autres jeunes femmes un peu à la mode de cette époque-là, s'habillaient en revival. Elles achetaient, soit elles portaient les vêtements de leur mère, soit elles s'habillaient aux puces ou dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des boutiques vintage. Mais ce qui n'était jamais arrivé, c'était que la haute couture passe sur ses vêtements pour les sublimer. Et ça, on est encore là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait quoi, 40 ans ? Ça fait 40 ans qu'on est dans le revival où sans arrêt, on réinterprète le vêtement de la saison, enfin de 10, 15, 20 saisons précédentes.
Comme un romancier à la Modiano, parce que vous dites Saint-Laurent ressemble plus à ça.
Voilà, exactement.
Qu'au visionnaire.
Voilà, Saint-Laurent, c'est un romancier. Il a une idée de la femme qui est une idée un peu rêvée. La femme, au fond, d'Yves Saint-Laurent, c'est celle que lui-même aurait voulu être, et il habille cette femme-là comme lui-même aurait aimé se vêtir s'il avait été une femme. On est un peu plus dans le romanesque que dans le vêtement design.
Le parti pris de cette émission, comme celui du film de Bonello, c'est parler des 10 années les plus étonnantes d'Yves Saint-Laurent. Après, il y a les plus fructueuses, grâce au prêt-à-porter, grâce au parfum, grâce surtout aux licences. Ce ne sont pas nécessairement les plus heureuses. Et vous expliquez que Pierre Berger, à partir de ce moment-là, Saint-Laurent s'enfermant, on va parler par euphémisme, dans la difficulté d'être, jouant au dé au bord du gouffre, écrit la maison. C'est Pierre Berger, à partir du milieu des années 70, plus encore, dans les années 80, qui écrit la maison.
Mais en fait, lorsque Yves Saint-Laurent a été diminué, par ses problèmes personnels et qu'il s'est montré qu'il est devenu de plus en plus difficile pour lui de créer. Il était heureusement extrêmement bien entouré par ses femmes comme Loulou de la Falaise ou surtout Anne-Marie Munoz qui permettait à la collection de se faire. Et Berger, qui est un bon romancier, a eu l'idée de créer ce personnage du couturier qui souffre, du couturier qui serait un artiste et qui est dans sa souffrance créative. Et c'était très judicieux, c'était très intelligent parce que ça a permis à Saint-Laurent, à Yves Saint-Laurent d'être dans son propre univers et à la maison de continuer à exister. Et ça, c'est vraiment la fabrique de Pierre Berger.
L'audanum et l'audateur se suivent dans le dictionnaire Robert. Silence était imposé aux rédactrices de mode. C'est pas très difficile de leur imposer le silence. Écrivez-vous, je reprends ce que vous dites. Et en revanche, le personnage Saint-Laurent étant escamoté, devenant un monstre sacré rimbaldien, des célébrations immenses avaient lieu devant des publics de plus en plus nombreux. Alors il y a eu la grande exposition au Met que vous signaliez, l'exposition au Musée des Arts de la Mode qui se crée à Paris. Et puis ces célébrations dans des lieux plus improbables, la fête de l'UMA, le Stade de France, avant de finir, bien sûr, au Centre Georges Pompidou.
Pourquoi la mode ne serait-elle pas la fête de l'humanité ?
Ouais !
Haute couture à la fête de l'humain, génial !
Mais la classe ouvrière, c'est le luxe. Dans sa tête. Les autres, ils ont le pognon, c'est vrai. Ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent. Sauf les idées. C'est pour ça que ça s'appelait ça, la fête de l'humanité.
Au Stade de France, le défilé de 300 mannequins célébrant les 40 ans de mode du Saint-Laurent et des top modèles qui déambulent au rythme des tambours.
Les Metallo Boys rythment ce soir un défilé exceptionnel. Des mannequins qui flottent par vagues successives sur un ciel suspendu. La Slovaque Adriana, fiancée du joueur Carambeu, porte ici une robe chez Erazade. Ici Carla Bruni et ses colombes de la paix.
Sur fond de Stone, Jerry Hall, top modèle américain en fourreau et manteau vaporeux. Claudia Schiffer, Naomi Campbell et une centaine de mannequins redonnent vie aux robes Cocteau, Picasso, la jupe Arlequin, la police russe, la robe de mariée, chaussons de laine et les smokings. Une heure et demie de show, l'apparition discrète de Catherine Deneuve. Saint-Laurent titube, la rejoint, l'actrice et le couturier bras dans les bras quittent la salle en larmes.
Et c'est le moment de la fermeture de la maison en 2002. Depuis, Pierre Berger a tourné la page, il dirigeait la chambre syndicale de la couture. Et il explique qu'il n'y a plus de haute couture à partir du moment où la maison Saint-Laurent est liquidée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La haute couture, elle était déjà très très mal en point avant la fermeture de la maison Saint-Laurent, parce que d'ailleurs la maison Saint-Laurent, elle arrive vraiment à la fin de la haute couture, et ce qui a fait sa fortune et sa richesse, ça n'est pas la haute couture, c'est le prêt-à-porter. Il n'y a plus de haute couture, oui, enfin oui et non. Il reste encore quelques ateliers. D'ailleurs, Pierre Berger n'a pas fait grand-chose pour les ateliers, il n'a pas fait grand-chose pour la haute couture qui a tant donné à la marque et à la maison Yves Saint-Laurent. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ce qui va advenir de cet art qui remonte à Louis XIV, puisque c'est Louis XIV et Colbert qui ont vraiment encouragé les métiers, les grands métiers du luxe français. Donc, est-ce qu'il n'y a plus de haute couture aujourd'hui ? Visiblement non, mais il n'y a plus de clientes. Maintenant, il reste quand même des ouvrières.
Et Marie-Dominique Lelièvre, vous diriez pour conclure que c'était peut-être mieux de prolonger dans l'art modeste façon 18e siècle plutôt que de faire exploser en plein vol l'art de la couture conçu de manière peut-être un peu emphatique. Votre livre Saint-Laurent aux éditions J'ai lu, votre livre sur Chanel et ses amis aux éditions de Noël, Elisabeth Collet à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, Ilinka Negulesco pour la préparation de cette émission.